Le journal Adiachi Poukou.
À la une de cette édition, l'accrochage hier mardi à l'Antélé entre les militaires commis à la gare de Jean-Pierre Bemba et ceux du président Joseph Kabila. Il n'y aurait eu aucun mort ni de blessés, témoignage du bourgmestre de l'Antélé dans ce journal. Recrudescence de la malaria en province orientale, plus de 700 000 malades ont été enregistrés et plus de 1500 décès signalés. Ces chiffres ont été donnés par le Programme national de lutte contre le paludisme à l'occasion de la journée africaine de lutte contre cette maladie célébrée hier. À la une également, la détention illégale de certains animaux sauvages à Kilembwe au sud Kivu. Selon notre reporter, des petits chimpanzés, animaux qui font l'objet d'un trafic irrégulier, sont détenus par des braconniers. Bonjour à tous. Échange des tirs hier soir en télé entre les soldats de la garde du vice-président Jean-Pierre Bemba et ceux du président Joseph Kabila. Selon le bourgmestre de Ntélé, près de 5 soldats de Jean-Pierre Bemba se sont accrochés au GSSP. Tout est parti de la menace des gardes de Jean-Pierre Bemba à l'endroit de ceux du GSSP. Ces derniers ont trouvé une occasion de se venger. Aucune perte humaine ni de blessés dans les deux camps. Des explications du bourgmestre de la commune de l'Ntélé, Augustin Kama Indi. Il a été joint au téléphone par Nadine Foula.
20h30, 21h20, un véhicule du vice-président chargé de l'Ecofin qui partait pour Maluku pour déposer le vivre. Arrivé à la station Célé, le véhicule est tombé panne. Les éléments de la GSSP sont venus menacer les conducteurs ainsi que les gens qui se trouvaient dans le véhicule. Le nœud de problème, c'est quoi, il semblerait. Ce véhicule-là, l'autre fois, avait transporté un élément de la GSSP. Arrivé quelque part là, avant de le faire descendre, ils l'ont menacé. Alors, les éléments de la GSSP Célé ont dit que, comme ce véhicule-là a menacé notre chauffeur, lorsqu'il passera ici, nous allons menacer encore les chauffeurs de ces véhicules. Le véhicule s'est tombé panne juste à la station. Les éléments de la GSSP se sont décidés de menacer les chauffeurs et les personnes qui se trouvaient dans le véhicule. Ils se sont intimidés, tirés les balles, mais il n'y avait pas de pertes en vie humaine, même pas de blessés. Le commandant de la police, Siad Dinsele, s'est dépêché sur le terrain. Il a calmé la situation.
Et puis une mission mixte section des droits de l'homme de la MONUC Mbandaka et l'inspection de la police nationale congolaise viennent de se rendre à Lufumba, groupement situé à plus de 500 km au nord-est de Mbandaka. C'est pour enquêter sur des exactions commises par la police locale de Bassankoussou à l'endroit de la population du groupement Lufumba. Récit des faits avec notre confrère Henri Lobondo Bokelou qui pour atteindre Lufumba a dû emprunter de petits sentiers à pied, à moto, ensuite par pirogue. Sa pirogue a même chaviré dans la rivière. Lodia suivit son reportage.
Ces exactions remontent au mois de mars dernier, quand une équipe de 12 policiers venus de Bassankoussou est descendue dans le groupement Lufumba pour venger le commandant de la police locale de Waka tabassé par la population. À l'origine de cette colère de la population, un policier qui accompagnait le commandant Patrick Mangassa en mission dans ce groupement a tabassé un élève jusqu'à perdre connaissance. Croyant l'avoir tué, le policier a pris le large et son commandant a été pris à partie par la population. Informés de la situation, 12 policiers de Bassankoussou sont descendus à Lufumba en expédition punitive. Ils ont pillé, saccagé, torturé la population et violé des femmes. Au total, 37 femmes ont été violées, parmi lesquelles 3 filles mineures. 2 femmes enceintes ont dû avorter, témoignage d'une victime.
L'un des policiers qui m'ont trouvé ici m'a violée. J'ai eu peur de les dénoncer à mon mari car en ce moment-là, lui aussi était arrêté. J'avais un retard de 2 mois. Malheureusement, j'ai dû avorter.
Informé, l'inspection provinciale de la police nationale a envoyé une équipe de 12 policiers du groupe mobile d'intervention en remplacement de la police locale de Waka. Déjà, 2 kits de médicaments sont arrivés à Lufumba pour la prise en charge médicale des femmes violées. En attendant le résultat de l'enquête menée sur le terrain par la section des droits de l'homme de la MONUC et par la police nationale. Henri Lobondo Bokelou, Mbandaka, Radio Okapi.
Un calme précaire règne dans la carrière artisanale de Mboula à 80 km au nord de Lubumbashi. Nous sommes dans le Katanga. Selon le président de l'association des exploitants miniers du Katanga, les policiers assiègent la carrière et commettent des exactions sur les creuseurs. Pour lui, ces policiers présents à la carrière ne sont pas en mission de routine, comme l'affirme leur commandant. Paul Makonzo est au micro de Colin Djumamou Sompo.
J'ai pu appeler le commandant de la police des mines qui me dira que non, c'est un problème de routine. Nous sommes sous tutelle des mines. S'il y avait un problème de routine, je crois que dans l'article 116 du code minier, c'est normalement la division des mines qui devait réquisitionner la police pour l'information et non la police s'est réquisitionnée elle-même. Bon, quand on parle de contrôle de routine, je crois que les gens n'atterrissent pas à minuit. Il y a eu des agents de l'EMA qui ont été enlevés à 1h du matin. Je demande aux autorités, je demande au major qu'ils puissent retirer sa police là où elle se trouve. Ils sont là illégalement. Quand on dit que la situation est calme, c'est une situation précaire.
La journée africaine de lutte contre le paludisme a été célébrée hier. À Kisangani, le programme national de lutte contre le paludisme a publié son rapport pour le premier trimestre de l'année en cours. Selon ce rapport, le nombre de personnes atteintes de la maladie en province orientale est inquiétant. Plus de 700 000 malades ont été enregistrés et plus de 1 500 décès signalés. Vicky Boulako, assistant technique du programme national de lutte contre le paludisme, nous en parle. Il est au micro de André Kitenge.
Rien qu'en province orientale, on a enregistré 564 470 cas avec 1519 décès. Ça, c'est la source selon l'OMS. En 2006, le premier trimestre nous donne déjà 83 554 cas avec 149 décès. Vous verrez avec moi que le nombre de décès pour cette année 2006 s'approche déjà. Donc, c'est à peu près 10% des cas de décès de l'année passée. N'est-ce pas? Et cela s'explique aussi. On comprend qu'il y a dans certaines zones, les données ne nous ont pas encore parvenu jusque-là. Il y a un problème d'accessibilité, il y a un problème des moyens de communication qui manquent. C'est sûr que si tous ces moyens-là étaient mis en jour, on pouvait avoir beaucoup de cas de décès. Donc, comparativement à l'année passée, on voit qu'en 2006, déjà au premier trimestre, avec ces chiffres ici, on sent déjà qu'il y a un problème. Et cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a un problème d'abord de la non-accessibilité aux soins de qualité. Il y a un problème aussi de l'utilisation des moustiquaires. Donc, le moustiquaire imprégné n'est pas beaucoup plus disponible à la population.
À Mbujimayi, la liste des pharmacies autorisées est connue depuis ce week-end. Sur 520 pharmacies recensées, 138 seulement sont retenues pour continuer à œuvrer sur l'ensemble de la ville de Mbujimayi. Le pharmacien inspecteur provincial Jean-Richard Ilunga, qui a fait cette publication, justifie cet acte par la lutte contre la croissance des officines illicites qui ne remplissent aucune condition d'ouverture. On l'écoute, il est au micro de Nike Mputu.
Ce qui a motivé cela, c'est l'assainissement du secteur pharmaceutique. Le médicament, c'est un poison. Le médicament doit être manipulé par une main experte. Il y a beaucoup de boutiques de la mort. Et parmi ces boutiques, nous avons dit, comprennent ceux qui ont les minimums de conditions de fonctionnement et d'ouverture. C'est-à-dire les pharmacies qui acceptent d'avoir des pharmaciens ou être encadrés par des pharmaciens dans un premier temps. Les pharmacies qui ont les minimums de conditions de conservation. Un bâtiment spacieux, nous ne pouvons encadrer que les pharmacies retenues. Donc les pharmacies qui ne sont pas sur cette liste doivent être fermées. C'est pourquoi nous avons besoin de l'appui de l'autorité politico-administrative, de tous nos services de sécurité et des médias.
Quelques mois après le début du rapatriement des réfugiés congolais de la Tanzanie, la scolarité des enfants rapatriés pose problème à Uvira dans le sud Kivu. Hier mardi, comme le 25 de chaque mois, certains élèves du primaire et du secondaire ont été mis à la porte. Motif, non-paiement de la prime des enseignants. Certains parmi les élèves de l'Institut d'Uvira sont allés exprimer leur mécontentement auprès du superviseur de l'éducation nationale. Les détails avec Fiston Goma.
Parmi les enfants mis à la porte, l'on retrouve des rapatriés, mais aussi des déplacés et des vulnérables dont les parents n'ont pas de quoi payer pour leur scolarité. Selon le préfet de l'Institut d'Uvira, Mathieu Bassazawa Pengere, le Haut Commissariat pour les réfugiés n'aurait pas payé le deuxième trimestre pour ses élèves. En effet, dans son programme de réinsertion dans leur milieu de retour, le HCR prévoit le paiement des 3 mois de scolarité des enfants de retournés. Après les 3 mois, c'est aux parents de prendre en charge leurs enfants. Une réunion a été tenue la semaine dernière pour tenter de trouver une solution au problème. Les parents demandent qu'on puisse les aider à payer la scolarité de leurs enfants. Quant à l'administrateur du territoire d'Uvira qui fait la médiation entre les parents et les enseignants, il demande que ses élèves soient exemptés du paiement de la prime jusqu'à la fin de l'année. Le temps de trouver une solution durable. Au total, 3 935 enfants de rapatriés sont concernés par ces problèmes. Rappelons que l'année scolaire s'achève dans 2 mois. Fitongo Mamayabala, Uvira, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, c'est le bras de fer entre la Régie des voies aériennes et la MONUC. Les deux institutions n'accordent pas les violons quant à l'utilisation du tarmac de secours encore en construction à l'aéroport de Goma. Le tarmac provisoire sert déjà de parking aux avions pour certaines compagnies aériennes, alors que la MONUC souhaite, elle, que la zone soit suffisamment dégagée afin de poursuivre les travaux. Le point avec Jules Ngala Wamona.
La RVA Goma reconnaît avoir autorisé l'utilisation provisoire du tarmac de secours, encore en construction par les contingents sud-africains de la MONUC, mais seulement pour raison de force majeure. Selon le commandant de l'aéroport de Goma, la coïncidence au sol lundi d'un Boeing 727 de Ewa Bora et d'un DC-9 de Wimbi Dira a imposé l'utilisation du tarmac en construction comme parking provisoire. La même situation s'est poursuivie mardi selon la même source, avec l'arrivée d'un avion MD-81 de la compagnie CAA, alors que le 727 de Ewa Bora se trouvait toujours au sol. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la RVA Goma dit être obligée d'utiliser les 300 mètres du tarmac déjà compacté par le contingent sud-africain. À la fin des travaux, ce tarmac d'une longueur totale prévue de 400 mètres devrait servir de tarmac de secours en attendant la réhabilitation de l'ancien tarmac endommagé par l'éruption volcanique de 2002. La première fois, la RVA avait dû présenter ses excuses à la MONUC qui souhaite que ce tarmac ne soit pas utilisé avant la fin complète des travaux. Goma, Jules Ngala Wamona, Radio Okapi.
La détention illégale de certains animaux sauvages, encore observée dans quelques contrées de la province du Sud Kivu, à Kilembwe en territoire de Fizi, notre reporter a rencontré des personnes détenant chez eux des petits chimpanzés, des animaux qui font souvent l'objet d'un trafic irrégulier. Leurs détenteurs se justifient par la recherche de l'argent. Suivez ce reportage de Michel Chirimwami.
Nous avons rencontré un de ces détenteurs près de la piste d'atterrissage de Kilembwe. Kalenga Olivier a capturé au piège cet animal parmi ceux qui, dit-il, venaient ravager les champs. L'animal est apparemment soumis à un régime alimentaire auquel le propriétaire affirme que le chimpanzé s'est déjà adapté. Le maître de l'animal le propose déjà à la vente moyennant de l'argent en devise.
S'il y a quelqu'un qui veut me l'acheter, je le lui offre sans problème. Nous vivons ici une vie de débrouillardise. Si on m'offre quelques dollars américains, je cède l'animal et l'animal ne pourra pas fuir.
Kibinga Wabilima, agent de l'environnement, conservation de la nature, eau et forêt dans le secteur de Lulenge, affirme que les animaux les plus souvent capturés sont les chimpanzés et les singes dorés. À Bukavu, le phénomène est connu et combattu par les agents de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Nous avons rencontré le chargé de l'éducation environnementale au parc Kauzibiega, Radar Birachurwa, qui reconnaît les fléaux.
Il y a beaucoup de lois sur la conservation de la nature qui interdisent la détention de ces animaux. Il y a de ces animaux qui sont classés sur l'annexe 1 de la convention CITES, des animaux qu'on appelle totalement protégés, notamment les gorilles, les chimpanzés, et la liste est longue. Tous ces animaux-là, quelles que soient les conditions, il est interdit de les détenir à la maison, c'est-à-dire vous devez les laisser là où ils doivent vivre, c'est-à-dire dans la forêt.
Enfin, le PNKB tente de récupérer ces animaux victimes de détention et des trafics souvent transfrontaliers. Il leur a trouvé un endroit provisoire à Luiro où ils sont nourris en vue de leur libération et leur retour dans la vie de la forêt. Bukavu, Michel Chimwami, Radio Okapi.
Bouclons cette édition à Kindu au Maniema. Une quarantaine de formateurs de terrain viennent d'être outillés par l'ONG Afilma sur le processus des élections démocratiques. Ils vont bientôt descendre sur terrain pour vulgariser partout dans leur base comment le déroulement plutôt des bonnes élections. Abeli Luzinga Edwin, une participante, est particulièrement satisfaite de cette formation. Elle s'exprime au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
C'est nous le peuple qui détenons maintenant le pouvoir. Nous détenons le pouvoir et nous sommes responsables de choisir un candidat qui doit vraiment nous représenter. Donc ce pouvoir nous revient, c'est à nous alors de remettre ça à quelqu'un qui est digne de ce nom et qui doit très bien nous diriger pour ne plus tomber dans des erreurs comme on venait de passer ici pour la première étape, l'identification et l'enrôlement. On n'était pas très bien informés, tout comme sensibilisés.
Fin de ce journal, merci à vous d'avoir été des nôtres.